Bienvenue au Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Avec nous dans le studio, Marion Grenier, bonjour.
Bonjour Anaïs.
Julien Michel à la technique.
Bonjour.
Et Gwenaëlle Morin, notre invitée, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va faire une interview à deux voix, Marion et moi, de ton travail, Gwenaëlle. Et avant tout, je vais te présenter en quelques mots avant de te laisser la parole pendant une heure. Donc, quand on pense à Gwenaëlle Morin, on a avant toute chose à l'esprit une police de caractère. Oui, une typographie, cette représentation visuelle de caractère d'une même famille dont le style est coordonné et forme un alphabet, un langage complet et cohérent. Des majuscules, petites et grandes capitales, dont le corps immense recouvre murs de théâtre, programme, décor, annonce la couleur. Non, chers auditeurs, vous ne trouverez pas chez Gwenaëlle Morin des costumes d'époque, de structures monumentales, de style réaliste, symboliste, naturaliste. Les histes ne lui sied pas. Au centre de son théâtre, vous trouverez des corps humains jetés au monde, touchés et transformés par les paroles humaines. Depuis 15 ans, il approfondit des classiques, il épuise des textes, en s'attachant à remettre avant tout le comédien, l'acteur, au cœur de la création, sans artifice, pour un travail de plateau qui va à l'essentiel. Il a monté Beckett, Adamoff, Strindberg, Garcia Lorca, Sarah Kane, Sophocle, Camus, Peter Handke, Molière et bien d'autres encore. Il a travaillé en Allemagne, investi les laboratoires d'Aubervilliers avec la troupe du Théâtre Permanent et dirige à présent le Théâtre du Point du Jour dans le 5e arrondissement de Lyon. Nous l'avons invité aujourd'hui à la Gamelle pour vous faire découvrir ses partis pris, ses engagements artistiques et pour vous dévoiler ses projets. Donc on va commencer, Marion et moi, par une première petite question qui concerne l'expérience du Théâtre Permanent à Aubervilliers. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs le concept en fait, du Théâtre Permanent là-bas ?
Oui. Donc le principe était simple, un théâtre permanent, un peu comme on... Théâtre permanent parce que c'est indéfendable en fait. Le théâtre est quelque chose de voilà de précaire, de lié au temps présent et il est voilà il est pas fragile au sens où il faudrait le protéger comme un objet délicat, mais il disparaît au moment même où il se manifeste quoi. Donc il y a quelque chose d'utopique dans le fait de revendiquer un théâtre permanent. C'est intenable. C'est un peu comme imaginer un musée précaire. Un musée, c'est à vocation à conserver les choses et à faire en sorte que les chefs-d'œuvre puissent perdurer à travers le temps. Enfin, il y a quelque chose qui fige les choses. Et donc, quand on parle de musée précaire, il y a une espèce de tension qui se crée. Et voilà, quelque chose d'intenable. Donc effectivement, il y a quelque chose de pour moi, ce qui fait la beauté du théâtre, c'est son illégitimité. C'est son illégitimité. Un théâtre acceptable, un théâtre convenu, devient un théâtre qui n'est plus nécessaire et qu'on oublie et qui peut bien disparaître. Ça ne posera aucun problème à personne. Le théâtre doit être, à mon sens, illégitime. Faire scandale, pas au sens où il montrerait les fesses de la nouvelle femme du président, mais au sens où le scandale, il doit faire en sorte de libérer la parole, en fait. Voilà. Non pas libérer la parole sur le plateau, ça c'est une chose, mais aussi permettre aux spectateurs qui sont protagonistes de l'aventure théâtrale, hein, qui sont d'une certaine manière acteurs du phénomène, que ces spectateurs-là, enfin que toutes les parties prenantes du spectacle soient scandalisées au sens où tout à coup un spectacle ou plus généralement ce que produit le théâtre, voilà, permette aux gens d'inventer, de de tenir une parole, de libérer une parole qui n'aurait pas existé auparavant. C'est un peu utopique. Donc il y a quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose d'intenable. Et théâtre permanent, c'est une manière pour moi de me mettre dans une situation intenable, utopique. Le principe était simple, ça consistait finalement une forme assez classique, réunir les conditions qui pouvait nous permettre de faire du théâtre au sens, pour moi faire du théâtre c'est donc jouer en public, répéter au quotidien et transmettre au quotidien, non pas ce qu'on appelle souvent des amateurs, c'est un mot que tout le monde comprend très bien et que je rejette pas, mais plutôt à des j'aimerais remplacer le mot amateur par le mot amoureux, et avec donc comment transmettre à des amoureux le théâtre qui nous anime, comment répéter pour pouvoir continuer à vivre de théâtre et surtout exposer au public, parce qu'à mon sens le théâtre ne vit essentiellement de son exposition au public, c'est-à-dire un spectacle n'est jamais terminé et son exposition publique le transforme, lui permet d'évoluer ou de dépérir. Et donc il s'agissait pour moi, en mettant en place ce théâtre permanent, de créer des conditions qui puissent nous permettre d'exposer le travail quotidiennement au public. Donc ça implique un lieu public, donc ça implique une entente avec les pouvoirs publics pour avoir accès à un lieu, donc à des financements. Voilà. Donc comment faire du théâtre tous les jours, c'est une question que je me suis toujours posée, je me pose encore, à laquelle je m'attache à répondre. Et effectivement, ce théâtre permanent-là est né d'une nécessité très personnelle, puisqu'il faut bien partir de quelque chose, qui était celle de ne pas accepter de ne pas pouvoir faire du théâtre tout de suite maintenant. Et de ne pas pouvoir reconduire cette chose-là à chaque seconde de ma vie. Quoi. Qu'est-ce qui m'interdit? Qu'est-ce qui me défend de faire du théâtre? Allez, soyons moins ambitieux, de demain matin. J'ai pas de lieu, mon projet n'intéresse personne d'autre. C'est inacceptable, en fait. On peut faire du théâtre tout le temps, toujours, de tout bois, à partir de rien.
Donc, en 2009, vous investissez les laboratoires d'Aubervilliers avec la troupe du Théâtre Permanent. Vous jouez, vous répétez, vous transmettez pendant un an, mm-hmm. tous les jours. Comment ça se passait concrètement une journée au laboratoire
Alors,
d'Aubervilliers?
En fait, juste comme ça, pour faire le malin en même temps. On n'a pas investi le théâtre avec une troupe, au sens où la troupe, pour moi, un collectif ne préexiste pas à une aventure. C'est l'aventure qui finit par donner forme ou non à un collectif. C'est-à-dire que moi, je suis pas arrivé à une troupe pour j'ai pas constitué une troupe pour faire du théâtre. J'ai fait du théâtre et par la force des choses, l'engagement dans l'activité théâtrale a produit une troupe. Il y avait un ensemble d'individus qui sont réunis autour de cette utopie, et cette utopie étant concrète et étant en partie réalisée, du coup l'entité d'une troupe s'en est dégagée. La journée type du théâtre permanent, c'était ça, donc de 10h à 13h chaque jour. Je le dis dans le sens de la journée, mais ça fonctionne un peu à l'envers. Donc de 10h à 13h chaque jour, on faisait ce qu'on appelait des ateliers de transmission. L'après-midi, on s'isolait dans l'intimité de la répétition avec les acteurs de la troupe. Voilà, disons-le, c'est plus simple. Et le soir, on exposait notre travail au public. On pourrait penser comme ça qu'on exposait le soir le travail qu'on avait pu faire dans la journée, ce qui n'était pas le cas. On présentait un spectacle qu'on avait préparé avant, et l'après-midi, on répétait le spectacle qui allait remplacer celui qui était à l'œuvre le soir, à une échéance de 2 mois. C'est-à-dire que tous les 2 mois, on renouvelait le spectacle qui était présenté le soir.
Pour expliquer un peu plus à nos auditeurs, mm-hmm. en fait, pendant cette année à Aubervilliers, il y a eu 6 pièces qui ont été montées. Voilà. Donc Wojtek, Tartuffe, Bérénice, Lorenzaccio, Hamlet et Antigone.
Exactement.
Et en fait, ça jouait tous les soirs du 1er au 24 de chaque mois, mm-hmm. avec à chaque fois ce même rythme répétitif de transmission le matin, de répétition l'après-midi et de représentation le soir.
Voilà. Et voilà, donc les 24 premiers jours, donc voilà, théâtre permanent, mais déjà les 24 premiers jours, voilà, il y avait quelque chose qui était aussi lié, c'est un peu différent maintenant, mais Et en fait, je vous disais que les ateliers de transmission, en fait, avaient pour vocation de nourrir le travail, c'est-à-dire que très simplement, en fait, vous pouviez être spectateur un soir de Hamlet, et vous aviez, je sais pas, un intérêt particulier pour le personnage d'Ophélie, mettons, ou pour soit une fascination pour l'actrice, ou au contraire un immense énervement. Enfin bref, en tout cas un point d'intérêt, et vous pouviez cette actrice-là le mercredi matin avait pour tâche de transmettre son rôle d'Ophélie aux gens qui souhaitaient, aux amoureux qui souhaitaient nous rejoindre le matin. Donc, c'est d'abord sur un principe d'imitation pure, en fait, hein, de transmission pure. Ben voilà, moi je fais ça, je te dis comment je le fais, à partir de quoi je le fais. Si tu veux essayer, fais-le. Et du coup, ça générait des incompréhensions, un manque d'expérience, je veux pas dire des incapacités, mais un manque d'expérience qui pouvait pas permettre comme ça de but en blanc de proposer ce que proposait l'actrice. Et du coup, cet espace de non recouvrement de l'un par l'autre étaient des espaces dans lesquels on pouvait le travail pouvait continuer d'avoir lieu, quoi. Voilà, et ça permettait à l'actrice, l'acteur, le cas échéant, d'avoir un travail critique sur sa propre partition, mais en même temps en écoutant les remarques, en observant les spectateurs engagés dans la pratique théâtrale, ça pouvait lui permettre de dire, ah tiens, effectivement, il y avait possibilité d'éclairer le personnage de cette manière-là, même si je l'ai pas choisi, tant pis, mais voilà, ça permettait. Donc d'une certaine manière, ces ateliers de transmission contribuaient à transformer le spectacle qui était présenté le soir. Il y avait pas, tiens, on a fait ça, on va tout changer, c'est tellement bien, mais on rejouait le même spectacle rigoureusement, mais en même temps il y avait une espèce de transformation lente qui faisait que le spectacle s'enrichissait aussi de cette relation pratique avec les spectateurs. Donc c'était pas un service, ça c'est pour moi c'est très important. C'était pas sans mépris aucun pour les gens qui sont engagés dans des entreprises socioculturelles, mais c'était pas un service rendu à une population à qui on aurait pu estimer qu'il manquait une certaine forme d'ouverture sur le monde, mais c'était au contraire une manière de demander à ces amoureux-là de venir nous aider en fait à faire du théâtre.
Et alors, qui étaient ces amoureux? Est-ce que vous les avez rencontrés tout de suite en arrivant? Est-ce qu'il y a eu un temps, j'imagine, d'adaptation sur le territoire? Ils n'ont pas été du jour au lendemain, le matin, chez vous et...
Bah en fait, j'entends dire des fois, ouais, moi je me suis jamais, je pense que ce qui le plus important au théâtre, c'est que les spectacles soient bons. C'est-à-dire que je dis pas que mes spectacles sont bons, et un bon spectacle, qu'est-ce que c'est, mais en tout cas qu'à un moment donné, ils produisent du sens, quoi. Donc on a toujours eu du monde. Quand je dis du monde, il y avait pas 80 personnes tous les matins, mais il y a jamais eu personne. Donc on s'est donné une règle au théâtre permanent que je continue de respecter, qui est quoi, on joue à partir de 1. À partir du moment où il y a quelqu'un dans la salle, on joue. Et cette personne-là, au pire, c'est moi. Mais on joue à partir de 1, et donc on a tenu des ateliers où il y avait effectivement, mais ça a été très rare, peut-être il y a eu une personne une fois, mais on n'a jamais été conduit à dire, ben merde, il n'y a personne, laisse tomber, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours eu quelqu'un. Des fois il y avait 40, des fois il y avait 2. Et encore une fois, ça m'est difficile de vous répondre sur l'identité des gens qui nous ont rejoints, parce que pour moi, il n'y a pas de... les gens qui nous ont rejoints, c'est des gens qui avaient vu le travail, en fait. Et donc je pourrais vous faire une espèce de portrait sociologique des différentes personnes qui ont pu nous rejoindre, mais ça impliquerait de ma part que je puisse me comporter différemment selon si c'est lui ou selon si c'est elle. Or, j'avais, vis-à-vis des gens qui venaient dans ces ateliers-là, j'avais exactement la même exigence que j'ai vis-à-vis des acteurs professionnels avec qui je travaille. Et j'étais relié à ces gens-là par le théâtre, mais j'étais aussi séparé de ces gens-là par le théâtre. Ma préoccupation était faire du théâtre. Et donc je me préoccupais pas de savoir quelle était l'origine, quelles étaient ses compétences, quels étaient ses goûts, quel était son emploi du temps. Hein, voilà. Moi j'étais là pour faire du théâtre et les gens que j'ai rencontrés sont des gens qui venaient aussi là parce que nous étions reliés, séparés par le théâtre. Alors évidemment il y avait, je me dédouane un peu de répondre à votre question concrètement, mais et il y avait des enfants du quartier dont certaines mamans voyaient l'opportunité le mercredi de leur offrir une activité pour pouvoir prendre un peu de temps pour elles-mêmes. Il y avait des retraités qui venaient de l'autre côté de Paris régulièrement pour parce qu'ils étaient amoureux d'Antigone et ils voulaient en savoir plus. Il y avait des acteurs professionnels qui pendant un temps de latence étaient assidus aux ateliers pendant 15 jours pour pas perdre la main. Il y avait des chômeurs, il y avait des gens d'en face, il y avait tout en fait. Et puis il y avait surtout pas de nécessité de s'inscrire. Donc on pouvait venir une fois pour flirter, on pouvait revenir tous les jours pour faire des enfants. On pouvait à partir du moment où quelqu'un était là, on essayait de donner du sens à ces quelques heures dans la perspective de jouer le soir et dans le souvenir d'avoir joué la veille, quoi. Donc c'était vraiment un organe d'échange, de rencontre, mais axé sur la production coûte que coûte, enfin, ou sur l'expérience coûte que coûte de la pratique théâtrale.
Et qu'est-ce que ça apportait en fait ce travail, on va dire dans l'urgence, au terme, enfin. Chaque représentation, en fait, c'était un travail qui était traversé justement par ces rencontres avec les amateurs.
Pas tant que ça. Non, faut pas. C'était pas. C'est-à-dire que moi, il y a rien qui m'insupporte plus que ce qu'on appelle le work in progress ou que cette espèce de snobisme autour du ouais, c'est pas fini, mais tu comprends, c'est tellement chic. Tu vois, on est au travail et tout, on se comprend trop, ça va venir, tu vois. L'art n'est pas expérimental, quoi. Je suis désolé. Parce que tout simplement, voilà, ce micro-là n'est pas la possibilité de ce micro-là, c'est ce micro-là. Voilà, l'arbre qui est dehors, c'est pas la possibilité d'un arbre, il est comme ça. Ma gueule, c'est pas la possibilité de ma gueule, elle est comme ça. Et dans la mesure où l'art s'en prend, ou s'attaque, ou se confronte au réel, il peut pas être la promesse d'autre chose que ce qu'il est, quoi. Donc pour moi, il était important que les spectacles du soir soient affirmatifs. Une œuvre d'art est affirmative. Elle peut être mauvaise, hein, et elle peut être voilà, mais elle est affirmée. Il s'agit de donner forme, quoi, d'affirmer, donner forme. Et donc il y avait une proposition, enfin une affirmation claire chaque soir, et cette affirmation claire n'était pas définitive. C'est aussi cette chose-là, parce que quand on fait du work in progress, c'est un truc genre ouais, on sait que c'est pas définitif, donc il y a une espèce de permissivité, genre on sait jamais trop, puis au bout du compte ça génère la dictature des rapports de pouvoir de merde, où on croit qu'il y a un secret et où en fait il y a juste le puissant et le faible, quoi. Là il y avait pas de secret, c'était comme ça, c'était en pleine lumière. Et en même temps, ce qui était assez beau, c'est qu'effectivement, ce contact, il y avait une séparation claire entre non, ce qu'on fait dans les ateliers, ça va pas être dans le spectacle du soir. Mais par la force des choses, il y avait une contamination. Elle n'était pas organisée, mais il y en avait une par la force des choses. Voilà. Et donc c'était pas du... donc voilà, il y avait pas genre toute la journée on faisait des trucs puis le soir on faisait un rendu des résultats d'atelier. Non, il y avait un espace, voilà, le soir c'était clair, affirmatif, quoi. C'était une œuvre d'art, et qui dit œuvre d'art veut pas dire bonne œuvre d'art. Il y en a des bonnes et des mauvaises. Après cette chose là voilà, c'est une autre question, mais chaque soir était une expérience affirmative du théâtre et non pas une, voilà, pas... Voilà, donc l'art n'est pas... Moi, je pense qu'il n'y a pas d'art expérimental. L'art est expérience.
Et alors, chaque soir, c'était gratuit, chaque matin aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette, cette gratuité qui est importante, qui était importante en 2009 en tout cas, et aussi, je ne sais pas si ça va ensemble, mais sur la notion de théâtre ouvert, ouvert jusqu'à où, est-ce que les répétitions étaient ouvertes, on imagine un peu un lieu avec les portes ouvertes, on rentre, on sort, même pendant les spectacles.
Ouais, pareil, il y a une forme de fantasme que j'ai par rapport à ça, cette espèce de porosité, cette respiration magnifique qu'il pourrait y avoir entre l'intérieur d'un théâtre et la rue, qui ferait que les gens rentreraient, sortiraient. Mais c'est très difficile à mettre en place. Certains artistes y parviennent, les gens comme Forced Entertainment notamment, enfin bref. Pourquoi je me suis arrêté là-dessus?
Gratuité.
Non, la question de la gratuité. En fait, moi, la question de la gratuité, je me la suis posée d'abord en termes plastiques. C'est qu'effectivement, je voulais pas, parce que à partir du moment où les choses sont payantes, quand bien même elles seraient, et il faut exiger un ticket. Enfin voilà, il faut établir une frontière en fait entre le dedans et le dehors, le dedans qui nous est accessible en contre rétribution et le dehors qui est voilà. Et effectivement, je voulais faire en sorte que le théâtre, enfin en tout cas que le fait de se constituer spectateur ne se place pas au moment où on achète sa place en fait. Voilà. Et je voulais pas établir de barrières, etc. Mais après, pour des questions de sécurité, tout ça, il a malgré tout fallu, bien que ce soit gratuit, distribuer des tickets, parce qu'il faut savoir combien il y a de personnes dans la salle, etc. Donc j'ai pu résister pendant quelques jours, pendant quelques semaines, aux lois de sécurité, aux exigences de sécurité, mais à un moment donné, c'était un combat épuisant et j'ai préféré me concentrer sur le fait de faire du théâtre et accepter une certaine forme de contrainte, une grammaire.
Julien va nous faire écouter une petite petit extrait de The Doors. Ah non, pas du tout. Il nous a mis Money direct.
Money.
donc vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle en compagnie de Quenaël Morin. Et l'expérience du théâtre permanent t'a amené en fait à monter 6 textes très importants. Comment tu les as choisis et pourquoi tu as choisi ces textes-là? Donc je les rappelle, c'était Voïtsek de Büchner, Tartuffe de Molière, Bérénice, je ne sais même pas de qui.
Racine.
Lorenzaccio, Hamlet, Antigone. J'aurais pas dû prendre la parole. Pourquoi t'as choisi ces textes-là et qu'est-ce qui te plaît dans ces textes?
Mais en fait, j'essaie de me mettre dans une situation où j'ai pas à choisir, en fait. Parce qu'en fait, choisir, pour moi, c'est, on choisit la couleur de sa bagnole. Donc, voilà, c'est bleu ou rouge. Le choix, c'est quelque chose qui se définit entre deux pôles. Et j'essaie de me mettre en situation de décision. La décision, c'est, voilà. Et voilà, il y a un truc avec le fait de couper. C'est-à-dire que décider, c'est, à un moment donné, couper et retrancher toutes les possibilités sauf une. Et des fois, celle qui reste, elle n'existe même pas encore parfois. Et c'est une situation dans laquelle j'essaye de me mettre.
C'est-à-dire, concrètement, tu fais comment? Tu te mets devant ta bibliothèque?
Ouais, voilà, d'une certaine manière.
Tu fais genre
Effectivement, d'une certaine manière, une certaine forme de hasard, en fait. Et une manière de convoquer le hasard, quoi, parce que le hasard comme une. Comme un non-sens, comment créer le destin à partir du hasard, quoi. Voilà, bref. Et donc ces textes-là, non, je les ai malgré tout choisis. Il s'agissait pour moi d'affirmer un point dans la ville par les moyens du théâtre, quoi, un point d'énergie, de sens, d'engagement, d'intensité.
C'est une commande ou pas du tout d'Aubervilliers de dire on veut des textes d'auteur?
Non, mais pour moi il fallait que ce soit le plus clairement du théâtre, quoi. C'est-à-dire que juste après théâtre, j'ai vu des sketchs de Elie Semoun assez consternants avant-hier par hasard à la télé. Et quand il dit Molière, tout le monde comprend de quoi il parle, quoi. Alors après, évidemment, ça devient vite terrible. Mais bon, en même temps, c'est... Voilà. Mais donc voilà, Molière, Shakespeare, Racine, et puis ces pièces-là, voilà, désignent le théâtre tout de suite, quoi. Donc j'ai un peu monté des tubes, quoi, des choses comme étant identifiées, comme étant des choses, voilà, qu'on le veuille ou non, comme étant des espèces de, voilà, comme étant du théâtre, quoi, sans savoir de quoi y retourner.
Pour que tout le monde se dise, il y a du théâtre à Aubervilliers.
Ouais, voilà, d'accord. Voilà, qui est quelque chose de très
évident,
de très clair, quoi.
Et paradoxalement, en fait, t'as commencé, parce qu'on n'est pas revenu sur les premières mises en scène que t'as montées, mais c'était souvent des montages de textes, c'était d'après, c'était.
Ouais.
T'as beaucoup travaillé dans le tricotage. Enfin, par exemple, pour expliquer aux auditeurs, j'ai sous les yeux là. T'avais monté un montage de dialogue amoureux des films de Godard qui s'appelait Pareil, pas pareil. Mm-hmm. T'avais adapté en fait des textes d'Adamoff. Enfin, j'aurais toute une série choses à dire. Et en fait, on dirait que tu reviens à ces classiques, à ces montagnes comme ça, c'est... après toute une série où justement t'es allé chercher peut-être plus en toi d'autres choses, je sais pas lesquelles.
Ouais, mais parce qu'en fait, il y a une. Il y a cette question de l'écriture du théâtre et des auteurs contemporains et je savais pas à quel endroit exercer je savais pas précisément à quel endroit exercer la pression pour transformer les choses, et effectivement ces premiers montages ou ces premières triturations de textes, c'était une manière de j'ai perdu le fil de ce que j'avais trouvé là, une bonne phrase, je me souviens plus. Mais c'était une manière de m'interroger sur comment écrire du théâtre, quoi. C'était presque une sorte de pis-aller, c'est-à-dire que j'avais pas le courage de moi me mettre à l'ouvrage, et donc j'allais puiser dans les ressources qui nous entourent, et j'essayais de construire comme ça sur la base de ce qui existait déjà une attitude un peu pop, quoi, un peu voilà. Mais je rejette pas ça du tout, hein.
Je vois que l'heure tourne, alors du coup je vais.
Ouais. Je me suis aperçu qu'il était possible de. qu'il était possible de faire un travail de création, enfin voilà, de en tout cas pour moi, sur la base de choses de, déjà fixées, déjà écrites, déjà enregistrées, déjà établies. Et que du coup ce qui apparaît quand on monte un classique, je sais pas, Tartuffe par exemple, finalement la question de l'auteur, voilà, finalement la question du contemporain, elle se pose à partir de nous acteurs en confrontation, en but à cette chose de toute façon incompréhensible ou compréhensible à partir d'un ensemble d'éléments qu'il faut évidemment remettre en cause et réinterroger. Et donc ce que livre le fait de monter des classiques, c'est non pas exalter le classique, non pas une nouvelle lecture du classique, mais ce que ça livre en fait, c'est notre rapport spécifique au monde, quoi. C'est-à-dire, est-il possible, nous est-il possible d'être contemporain de ces textes-là, quoi. Et ces textes-là nous sont-ils contemporains? Est-ce qu'aujourd'hui, non. Qui sommes-nous, nous, par rapport à un monde établi qui existe avec des lois, avec des canons, avec des aberrations? Et donc voilà, quel monde pouvons-nous inventer à partir de ce qui existe inexorablement, quoi? Comme accepter d'une certaine manière le fait d'être exclu au monde et de refuser cette exclusion et de construire la possibilité de notre propre liberté dans un monde qui est déjà établi, quoi. Puisqu'on dit monde, d'ailleurs, on dit pas réel. Le monde, c'est quelque chose. Voilà, le monde est rond, quoi. Le monde est achevé, et cet achèvement est inacceptable de notre propre expérience, parce que donc il y a quelque chose, à mon sens, de très, en tout cas pour moi, une expérience très très contemporaine dans le fait de devoir monter, de me mettre en situation de devoir faire face à ces montagnes, quoi.
Tu as travaillé avec Michel Raskin. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a apporté en fait pendant les 5 ans où tu as été son assistant? Qu'est-ce que t'as embarqué à ton tour avec toi qui vient de lui?
Bah, son théâtre, non.
Blague à part.
On rappelle que le théâtre du Point du Jour a été dirigé par Michel Raskin
et André Guittier. Ouais.
Depuis 95. Acharné, quoi, pour lui piller son théâtre. Ça m'a pris 15 ans.
Mission accomplie.
Non, il y a une chose. Par moment, je me surprends. On aimerait. J'ai remercié. Honoré, voilà. Et donc je me suis laissé aller à ce penchant-là avec Michel, et il m'a engueulé en me disant: mais non, tu m'emmerdes. Au théâtre, on doit jamais remercier personne. On doit rien à personne. Enfin, c'est pas qu'on doit rien à personne, mais si on commence à se dire merci, c'est terminé. Donc déjà, voilà, la première chose que j'ai appris de lui, c'est qu'il fallait pas que je le remercie. Cela étant, une chose qu'il peut pas m'empêcher de faire. Et pour ça, il peut pas empêcher que je fasse de lui mon maître, quoi. Voilà. Lui, il veut pas, mais c'est pas le maître qui décide, c'est l'élève qui décide de qui a pu être son ou ses maîtres. Et de ce point de vue-là, Michel Raskin a été mon maître, au sens où j'ai appris auprès de lui, une exigence de travail. De laquelle je me sépare maintenant, expérience aidant. Et j'invente mes propres exigences, mes propres méthodes, mes propres façons d'appréhender les choses. Mais pour moi, ça a été un apprentissage important, quoi. Sur la relation aux acteurs, sur l'organisation du temps des répétitions, sur le niveau d'exigence, sur la variabilité du niveau d'exigence en fonction de des disponibilités des êtres humains avec qui on travaille, sur la lecture d'un texte, c'est-à-dire que je suis pas le disciple de Michel Raskin. Le théâtre qu'il fait n'est pas un théâtre que j'aimerais faire moi et prolonger, mais ce qui m'empêche pas d'aimer le théâtre qu'il fait et de le respecter. Et donc je m'appuie, parfois j'ai besoin de m'appuyer sur le respect que j'aurai pour un de mes maîtres, que serait Michel Raskin, pour retrouver la foi et continuer à travailler.
On va écouter une chronique que Clara Fustier a réalisée en novembre 2012 Et c'était sur l'expérience de l'antithéâtre qui a eu lieu à Lyon, donc de septembre à décembre. On y reviendra juste après, justement, pour que tu puisses un peu plus nous expliquer ce qui s'est passé.
D'accord.
Mais on va lui laisser la parole.
Ce qui va se passer.
Et ce qui va se passer, oui. Père de la gamelle.
Une chronique qui tombe bien, merci Anaïs, puisque je fais aujourd'hui une chronique sur Gwenaëlle Morin, qui lui ouvre le théâtre, donc on prend la suite de Prévert. Et oui, hier soir, je suis allée mener ma petite enquête au cœur des 40 jours d'antithéâtre proposés par Gwenaëlle Morin et sa troupe au théâtre du Point du Jour. Mais qu'est-ce que l'antithéâtre, me direz-vous ? Eh bien, à l'origine, c'était le nom de la troupe de Rainer Werner Fassbinder, l'auteur à l'honneur. Et pour l'occasion, c'est aussi le nom de l'événement proposé par Gwenaëlle Morin au Point du Jour. 40 jours de théâtre qui ont débuté en septembre et s'achèveront en décembre. Du 1er au 9 de chaque mois, le public peut venir tous les soirs assister aux répétitions. Et le 10, une représentation unique est proposée. Je vais vous lire ce que Gwenaëlle Morin dit de l'antithéâtre. Déjà, pour lui, l'antithéâtre n'est pas anti-théâtre. Antithéâtre est contre le théâtre que les hommes se jouent à eux-mêmes. Antithéâtre est contre les conventions. Antithéâtre est contre la morale. Antithéâtre est contre la belle mécanique du « c'est comme ça » qui, irréversiblement, reconduit avec lassitude la même catastrophe. Antithéâtre est non aligné, non réconcilié, non consolable. Antithéâtre est excès. Antithéâtre est chaos. Antithéâtre est catastrophe contre la catastrophe. Dans le cycle antithéâtre, donc, il nous propose quatre pièces majeures de l'œuvre de Fassbinder. Anarchie en Bavière, Liberté à Brême, Goutte d'eau dans l'océan et Village en flammes. Hier, nous étions le 8, c'était donc le 8e jour des répétitions de Goutte d'eau dans l'océan. Nous sommes entrés dans la salle par le plateau. La scène avait été prolongée jusqu'au gradin. Gwenaëlle Morin est venue nous souhaiter la bienvenue dans ce 28e jour d'antithéâtre. Et à son signal, le rideau se refermait sur la cage de scène, laissant pour espace de jeu aux acteurs l'espace entre les gradins et le début de la cage de scène. La répétition commençait. Il s'agissait en fait d'un filage déjà très abouti en cet avant-dernier jour de répétition. Les lumières publiques sont restées allumées durant toute la répétition et les acteurs ont investi tous les lieux, gradins, couloirs, régies et même parfois ce qui est traditionnellement la scène, cachée par le rideau. Nous étions littéralement pris entre deux feux dans cette histoire de couple violente, cruelle, grinçante, comme en témoigne cet extrait.
Tu veux pas rester toujours ensemble ? Toujours est un grand mot. Mon Dieu, un jour tu vas simplement t'amener avec quelqu'un et je serai ma veille d'Élise.
Mais c'est absurde. Je viens de te dire qu'il ne viendra pas l'idée de coucher avec d'autres.
Aujourd'hui, peut-être pas encore, mais un jour.
Mais qu'on en prendra quoi ? Je ne fais absolument rien pour te donner des idées pareilles.
Qu'est-ce qui pourra bien venir après ?
Mon Dieu, mais tu peux mettre vraiment des clichés à bout de l'air !
J'en ai
c'est vraiment compliqué avec toi ! Et pourquoi c'est compliqué avec moi ?
J'en ai tout à fait marre !
Et pourquoi ? Je suis pour toi là !
Ouais, tu es là !
Mais !
Vas-y, tu repars ! Et alors je devrais attendre encore une fois toute une semaine !
Qu'est-ce que t'as fait à venir toute la semaine ?
Ah, si on prend les choses comme ça, presque rien ! Mais j'ai été sans arrêt dehors !
Je ne sais pas non plus, rien comme vraiment !
Je ne suis allé à l'école ! J'ai cherché un appartement !
Hé !
J'en ai trouvé un ! Ouais, donc ? Non, en fait, j'en ai pas trouvé, parce que c'est super dur.
Je vais avoir super dur à trouver un appartement en location tout à fait ordinaire.
T'as qu'à demander aux autres gens qui cherchent également des appartements. C'est sacrément difficile ici. J'en ai vu un qui était très beau. Je croyais l'avoir, mais voilà, il coûte 380 marques.
C'est trop cher. Et quoi d'autre ?
Pas d'autre.
Oui, qu'est-ce que t'as fait d'autre ?
J'ai fait le ménage sur l'appartement. Lavé les rideaux, les chaussettes. J'ai nettoyé et scié le parquet.
Vous l'avez pas du tout ?
Je l'ai pourtant scié, le bois est trop rugueux.
Tu n'as pas passé la paille de fer ?
Non, je savais pas qu'il fallait passer la paille de fer. La prochaine fois, je passerai la paille de fer. Je sais pas, j'ai cherché un job. J'en ai trouvé un.
Hein ? Ouais, quoi donc ?
Dans une maison d'édition.
Qu'est-ce que tu veux y faire ?
Ça, je sais pas encore très bien moi-même. On verra.
Combien tu gagneras, là ?
3 marques de l'heure. Quelque chose comme ça. Et je peux arriver et partir quand je veux. Je vais pas bien !
Et pour autant, on est constamment du témoin du théâtre en train de se faire avec ce qui lui tombe sous la main. Les acteurs font les bruitages, le dring-dring de la sonnerie du téléphone, la lance à incendie sert de téléphone, les noires scènes et certaines didascalies sont annoncées par le metteur en scène. De lui, seulement quelques interventions à la fin du dernier acte et quelques gestes. Mais je ne reviendrai pas plus ici en détail sur le travail de Gwenaëlle Morin, pour la bonne raison que nous espérons très prochainement l'accueillir dans nos studios, ici à La Gamelle, et qu'il en parlera mieux que moi. Mais pour rester fidèle à son engagement d'ouvrir et de transmettre le théâtre aux spectateurs, c'est à eux que je laisserai la parole.
Wow ! Fin du premier acte.
Les témoignages. J'ai d'abord été curieuse de connaître qui, parmi ce public qui était hier soir assez jeune, avec beaucoup d'élèves d'options théâtre, suivait l'aventure avec assiduité. Mais s'il y avait quelques découvreurs, j'ai rencontré une majorité de Morin addicts qui aiment à revenir plusieurs fois au cours des répétitions. Deux perceptions, donc, du côté des connaisseurs, voilà ce qui pouvait se dire.
Comme j'ai vu un autre Fassbinder là il y a quelques semaines, en septembre, je ne sais plus bien, en fait on voit vraiment les pièces qui se répondent en fait, l'une à l'autre, et puis l'obsession des relations de pouvoir dans le couple, etc. Enfin, du coup ça fonctionne super bien ça, de voir les ouais. pièces en parallèle comme ça. Ouais.
Et puis on a même l'impression que les acteurs, enfin les rôles se mélangent aussi.
Oui, c'est ce que je disais en sortant, là, c'est que ça donne envie de venir voir à nouveau dans quel état ce sera.
Oui, ouais. Peu. Ça fait 4 ans même que je connais cet univers et j'aime beaucoup. Après, ça fait moins longtemps. Parce que, ouais.
Mais je trouve que c'est super intéressant. Ouais. On n'a pas l'habitude et ça change.
C'est vrai que moi, la première fois, ça m'a... Enfin, on voit pas l'habitude de voir du théâtre comme ça, avec des grands écriteaux écrits en noir. Là, je me rappelle, j'étais allée voir quoi, c'était Bérénice, ouais. Quelque chose comme ça. Et c'était... Enfin, la salle était remplie de marqueurs noirs, et enfin, j'ai trouvé ça assez bien. Original.
C'est bon, ouais. Et ouais, ce qui te plaît du coup dans le travail de
cet univers qui est assez.
Son univers fait, plastique aussi.
Ouais,
du coup.
Il fait ça avec ce qu'il a. Là, le téléphone, il a pris quoi? Il a pris un tuyau de. Enfin voilà, il fait vraiment avec ce qu'il a sous la main.
Il sert de ce qui est là et il va pas chercher à trouver autre chose. Quoi. Mmh. Il sert des matériaux présents et. Mmh. Il fait avec. Et bah, en fait, ça rend plutôt bien.
Et du côté des découvreurs,
au départ, je m'attendais à avoir des répétitions arrêtées, un peu comme la manière qu'ils avaient de construire et de travailler au fur et à mesure à l'Élysée. Mais après, je ne sais pas si j'étais venue le 1er novembre, peut-être que ça aurait été différent. Là, il y a déjà 7 jours, 8 jours qui sont passés.
On se laisse, au début on est un peu, enfin moi j'étais un peu sur la réserve, un peu savoir ce que ça allait être, est-ce que c'était vraiment une pièce qui était finie, est-ce que c'était plutôt à l'état de répétition, ouais. S'il y aurait plus d'interventions ou pas, du metteur en scène, juste comme ça je me demandais vraiment, et puis je me suis laissée complètement prendre.
J'ai ensuite cherché à savoir à quoi ils avaient été sensibles, et on m'a beaucoup parlé de la pertinence du travail des acteurs et de cette liberté que leur donne un code de jeu non réaliste, une scénographie extrêmement épurée, ramenée à l'essentiel et centrée sur le texte et la situation.
Bah là, ce que j'ai trouvé de cohérent, mais de en lien avec le reste, c'est qu'ils privilégient à chaque fois toujours l'acteur et l'invention de l'acteur, et c'est très du théâtre de situation. Et c'est vrai qu'en ce moment, en tout cas, moi au théâtre, je vois pas beaucoup de théâtre de situation. Du coup, c'est intéressant de voir des comédiens s'en emparer. Et du coup, il y a une liberté de jeu et de création sur le plateau, d'imagination qui est plus importante, du coup.
Aspect conceptuel. Alors, au début, j'étais un peu réticente. Moi, j'avais un peu peur que ce soit pas trop un télo. Et en fait, non, on a vraiment le. Enfin, voilà, on est au théâtre, on est. à la fois on voit tout le dispositif, on voit que tout est en jeu, enfin là avec le tuyau, le téléphone, tout ça. Et en même temps, des fois, c'est un peu potache, ça fait du bien, quoi. Il y a des décalages.
Ouais, la connivence aussi avec le public.
Parce qu'au début, ça c'est marrant quand elle arrive.
Personne qui aime si bien.
On casse le fun en permanence.
C'est ça. Une adresse directe d'un seul coup, ouvert. Non, c'est que pour vous.
Des fois, on est peut-être ce soir. C'est une bonne surprise quand même. C'est de la ressource, ce garçon. Après, ce qui est intéressant, ce que je trouve bluffant à chaque fois, c'est que le fait qu'on soit sans artifice du tout. Du coup, le texte nous arrive et il y a des choses qui se passent sans éclairage, sans costume, sans accessoires et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, il y a tout. Enfin, moi, j'avais peur. Ça fait la troisième fois. Je me suis dit, mais c'est un dispositif qui doit s'user.
Oui.
Quoi.
Ouais. Et
voilà. On pour l'instant, non.
Pas encore.
Le spectacle en trois mots, ça donne ça.
C'est une expérience.
Cité, originalité.
J'ai trouvé ça très gai.
Vrai.
Découverte.
C'est une expérience. Pour le spectateur et pour les acteurs, j'imagine.
J'étais quand même un peu surpris.
Donc, le côté surprenant.
Convivial.
Donc surprenant. Ouais. Mais prenant aussi, on est emmené dans l'histoire, enfin dans le jeu d'acteur. Et le troisième, à renouveler.
Avant de vous quitter, je tenais à remercier chaleureusement la compagnie Gwenaëlle Morin de nous avoir accueillis et laissé capturer un bout du spectacle, ainsi que les spectateurs qui ont bien voulu nous donner leurs impressions. Ah oui, j'ai un petit message à passer pour Pierre Germain qui jouait Léopold hier soir de la part de certaines de ses élèves qui étaient dans la salle hier.
Bon anniversaire.
Voilà. Pour les curieux, ce soir, il y a encore une répétition publique. C'est à 20h au Théâtre du Point du Jour. Et samedi, la seule et unique représentation de Goutte d'eau qui est toujours à 20h au Théâtre du Point du Jour. Et je ne résiste pas, je vous quitte avec un dernier petit extrait du spectacle qui correspond bien à mon point de vue personnel.
C'est bien sûr le théâtre de la Camelle. Et là, on a entendu donc une chronique qui date de novembre 2012. Donc, effectivement, Gwenaëlle Morin est avec nous. Et donc, ça ne joue pas ce soir. N'allez pas au théâtre du Point du Jour ce soir voir le Fassbinder. Mais peut-être qu'on peut revenir brièvement sur cette expérience de l'antithéâtre.
Oui. On les rejoue le 22, 23, 24, 25 et 26 mai au Point du Jour. Là.
L'intégrale. Voilà. On en reparlera du coup.
Ouais, donc c'était quoi? Ben on est en train de, on re-répète en ce moment les trucs. Je sais pas très bien ce que c'est parce qu'on est un petit peu, non pas perdu, mais voilà. On est en plein dedans. C'est difficile d'en parler. Je sais pas. Redites-moi.
Pourquoi? Enfin, déjà l'expérience de l'antithéâtre et ouais. Pourquoi un antithéâtre?
Non, j'essaie de me défendre d'une fascination que je pourrais avoir pour un auteur ou pour un autre. Et à force de vouloir m'en défendre, à un moment donné, je dis que c'est un problème. Et donc, du coup, effectivement, j'ai pour le personnage pop, pour la pop star qu'est Fassbinder, une certaine fascination. Comment cet homme, qui est mort à 37 ans, a pu avoir une production aussi immense, quoi. Je sais pas combien de dizaines de films, de dizaines de spectacles de théâtre, plusieurs pièces écrites par lui, et tout ça en l'espace de quelques années. Et me revendiquant le fait de me mettre en situation d'urgence, d'hyper-productivité, pour accéder à un point d'épuisement qui permettrait peut-être d'entrevoir ce qu'il y a après. Enfin bref, je me suis dit, putain, comment ce... Je suis fasciné. C'est pas que je m'intéresse à Fassbinder, c'est que je suis fasciné en fait par ça, quoi. Et donc j'ai voulu me mettre un peu en situation, quoi, refaire artificiellement ce que j'imaginais qu'avait pu être cette aventure, et donc voilà. Et puis anti-théâtre, voilà, ça jette quoi. C'est une espèce de, c'est pas pareil. C'est une espèce de, c'est pas une déclaration d'intention. C'est pas un point de débat esthétique comme Ionesco et les Français sur faisons un théâtre contre le théâtre. Voilà, c'est pas. Je pense que c'est plus une affirmation dada quoi. C'est une espèce de geste intenable. Faire du théâtre en étant contre lui, évidemment c'est impossible quoi. Donc voilà. jamais trouvé ce, voilà. Puis l'urgence, voilà, plutôt que de prendre une seule pièce, on va en monter plusieurs, on va essayer de comprendre ce qui se passe, on va passer de l'une à l'autre. Le processus de travail était simple. J'ai demandé aux acteurs d'apprendre. On a fait la distribution a priori. J'ai demandé aux acteurs d'apprendre le texte par cœur et ils arrivaient le premier jour des répétitions et on faisait une mise en place sur la base de leur par cœur et on jouait comme ça et voilà et on essayait de voir comment au jour le jour les choses pouvaient évoluer. Surtout parce que voilà, surtout dans cette exposition au public quoi. Du coup ça galvanise, mais en même temps ça exige une concentration, ça induit un rapport au temps et un rapport à l'objet fini et un rapport à la qui fait que voilà, ça interdit l'autocritique, ça interdit le doute, l'apitoiement sur soi-même, ça interdit voilà, il faut survivre coûte que coûte quoi, j'ai voulu en tout cas avec Antithéâtre me mettre dans une situation d'extrême urgence. Et au final, ouais, entendre les gens, c'est très encourageant, c'est même inquiétant. Même. Bon,
alors, on a entendu le public du
Quelle responsabilité.
Pas responsabilité assumée. On a entendu le public du Théâtre du Point du Jour, théâtre que vous dirigez depuis janvier 2013. Et vous allez y instaurer, si on a bien compris, un nouveau théâtre permanent. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience à venir et ce qui s'y passe en ce moment et ce qui va s'y passer à partir de septembre.
Mmh. Donc voilà, donc théâtre permanent re
bis.
Ben parce que effectivement l'expérience d'Aubervilliers a été très fondatrice pour moi et que en même temps voilà, je me suis dit ouais, tant que t'as fait ça, maintenant il faudrait faire autre chose. Voilà, j'ai réfléchi comment faire, voilà, avoir une attitude critique par rapport à mon propre travail, puis cette idée qu'il faille produire du nouveau, qu'on va pas toujours faire la même chose, que maintenant qu'on a fait ça ce serait bien de faire autre chose, enfin voilà, surtout cette espèce de fascination qu'on peut tous partager pour le nouveau quoi, le voilà, G5, G6, etc. Enfin il y a du toujours nouveau quoi, voilà, mort avant même d'être né, enfin voilà, et je me suis aperçu assez vite que c'est une manière de fuir c'était une espèce de fuite en avant et que le meilleur moyen de savoir ce que j'avais pu faire en faisant le théâtre permanent, c'était de recommencer, en fait c'est un peu bête hein, mais de refaire la même chose quoi, un peu voilà. Voilà, il y a Vitesse qui dit ça, c'est facile, c'est un peu une, les citations, c'est toujours une facilité, mais voilà, faire c'est bien, refaire c'est mieux. Je préfère un Picasso qui dans la splendeur de son machisme dit qu'un homme qui veut pas faire l'amour à une femme pour une deuxième fois, c'est que la première fois il lui a pas fait l'amour. Donc voilà, il s'agirait pour moi de savoir qu'est-ce qui m'est arrivé à Aubervilliers en fait. Bon, en même temps, tout n'est pas voilà. Non, ouais. Donc refaire cette expérience du théâtre permanent et ne pas me mettre en situation de produire quelque chose de différent ou de nouveau, parce que d'un certain point de vue, la nouveauté est réactionnaire. Quoi. C'est-à-dire qu'on produit du nouveau délibérément qu'à partir d'une expérience qu'on a déjà du monde. Donc la différence de la nouveauté comporte en elle une réaction à ce qui existait déjà, quoi. Et il s'agit pour moi, en refaisant ce que j'ai déjà fait, de me mettre en situation peut-être de faire advenir malgré moi quelque chose que j'ai pas imaginé, quoi. Peut-être ce sera un échec total et puis ce sera stérile et ça conduira nulle part. Mais je vois voilà, je veux au moins tenter de faire l'amour une deuxième fois à cette femme-là, quoi, si vous voulez bien l'accepter.
Et avec des nouveaux amoureux, du coup, chaque matin, toujours.
Et des nouveaux draps, ouais.
Des nouveaux draps.
Ouais, est-ce que ça, tu vas garder le concept là d'atelier ouvert le matin?
Donc ouais, on va à peu de choses, le principe restera le même. Il y a quelques modifications de l'emploi du temps, voilà. Donc le théâtre permanent rouvrira le 1er septembre 2013, c'est ça. Et donc septembre, octobre, novembre, il y aura chaque mois le théâtre sera ouvert tous les soirs. Il y aura un spectacle tous les soirs de la semaine, sauf le lundi, non, sauf le dimanche et le lundi. À la différence d'Aubervilliers, ce ne sera pas les 24 premiers jours, ce sera tous les jours, sauf dimanche et lundi. Septembre, octobre, novembre, septembre, Don Juan, octobre, Tartuffe, novembre, Le Misanthrope, décembre, Off, janvier, Macbeth, février,
Le Roi Lear,
mars, Othello, avril, Off, mai, Oedipe, juin, peut-être Ajax, enfin en tout cas Sophocle, donc trois mois, Ajax, Oedipe et Electre, et puis août, Off, et septembre, la Mouette, octobre, la Cerisée, novembre, les Trois Sœurs, et décembre, Off. Voilà, ce qui représente 12 mois de théâtre intensif sur 16 mois.
Donc les auditeurs l'auront compris, donc 4 auteurs cathiques, Molière, Shakespeare, Sophocle, Tchekhov.
Exactement, voilà. Et donc ce sera tous les soirs, ce sera donc voilà 5 euros sans réservation.
Et
c'est pas gratuit.
Ah oui, et pourquoi c'est pas gratuit?
C'est pas gratuit parce que autant à Aubervilliers, il s'agissait d'un projet artistique qui s'inscrivait dans une structure culturelle qui avait elle-même son propre projet et qui exigeait en contrepartie de l'exposition d'autres artistes une rétribution. Mais en même temps, la question du tarif était posée à chaque fois en fonction du projet. Et donc en fait, ce qui était gratuit, c'était l'exposition de notre propre projet artistique. Et là, en tant que directeur du Point du Jour, je deviens du coup représentant d'une institution culturelle, et les pouvoirs publics m'ont clairement fait comprendre que le symbolique était un monopole d'État, et que je ne pouvais pas me permettre, moi, en tant qu'artiste, de décréter qu'un théâtre public en France donne libre accès aux spectacles qu'il présentait.
Donc en tout à partir cas, de là, c'est quand même 5 euros, c'est quand même en libre d'accès,
voilà,
quoi. C'est le prix d'un kebab.
Ce qui est une première conquête, ce qui est pour moi formidable. C'est-à-dire, peut-être certains y verront une forme de faiblesse, mais j'ai pas voulu devenir le chantre de la gratuité et me couper de la possibilité de faire du théâtre. La première conquête, c'est que les pouvoirs publics ont accepté la situation excessive qui est qu'effectivement 5 euros, c'est relativement peu cher et c'est totalement disproportionné relativement à ce que coûte réellement un spectacle. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que à l'adresse des pouvoirs publics, c'est que la question du financement du théâtre en France ne m'a jamais été aussi souvent posée qu'à Aubervilliers quand nous donnions libre accès aux spectateurs. C'est-à-dire que les gens disaient mais comment est-ce que ça peut être gratuit? Et du coup, ça a été l'occasion pour moi et pour les gens qui assumaient cette proposition-là de produire un discours sur le sens le sens du financement de la culture en France. Alors que exiger 1 euro, ne serait-ce qu'un euro symbolique, la question n'a plus lieu. Voilà, il y a quelque chose où voilà, l'échange d'argent a eu lieu et ça nous dédouane il n'y a plus cette question. Et je pense que et d'ailleurs on se le prend de plein fouet aujourd'hui à une échelle plus importante, c'est-à-dire que on paye trop d'impôts précisément parce que on ne sait plus quel est le sens. Enfin voilà, l'État entre en crise à partir du moment où on ne sait plus pourquoi on paye des impôts, où on le sait mal. Et en ce qui concerne la question culturelle, c'est que il faut produire du discours, non pas pour entuber tout le monde, mais il faut réinventer. Il faut faire de la politique en fait. C'était une manière que non pas dire ouais tout doit être gratuit. C'était pas une attitude libertaire. Au contraire, c'était anarchiste, allez vous faire foutre. Mais c'était une manière de mettre au centre la question de comment est-ce qu'on finance, comment, qui, pourquoi, comment, dans quelle perspective, que signifie en fait la relation du citoyen avec l'État, quoi, quelle forme elle doit avoir. Et cette question-là, elle était posée de manière violente avec la question de la gratuité. Mais je renonce pas du tout. Je renonce pas du tout à faire en sorte que le théâtre du premier jour puisse être gratuit. Et nous sommes déjà en train de réfléchir sur le financement de cette gratuité. Voilà.
C'est de belles perspectives.
Et une autre petite différence, il nous reste 2 minutes, mais ce sera donc une année de théâtre permanent, mais vous y êtes pour 4 ans, a priori. Mm-hmm. Est-ce que vous avez déjà une perspective des années suivantes, 3 ans, ben,
malgré
ans
tout,
de théâtre permanent
là, pour moi, le plus important, et c'est en ce sens-là où on pourra juger de l'échec ou de la réussite du théâtre permanent heureux, c'est qu'il ne s'agit pas pour moi de m'accaparer le théâtre du point du jour pour y faire mes mises en scène et aller vous faire foutre, mais il s'agit d'abord d'y affirmer mon propre travail dans une relation intensive au public dans la durée et faire ensuite créer un nouveau terme d'art, créer un nouvel outil et j'aimerais par-dessus tout que cet outil d'autres artistes puissent s'y reconnaître et pouvoir ensuite transmettre cet outil à d'autres artistes qui souhaiteront à partir de leur propre sensibilité faire aussi cette expérience de la relation intensive au public dans la durée. Donc la vocation du théâtre permanent heureux est peut-être de coucher pour la deuxième fois avec cette femme-là, mais surtout de faire des petits, bon c'est un peu une métaphore, hein, médiocre.
Bon, on va peut-être se quitter sur ce
ces belles paroles.
Tout le monde à poil.
Non mais c'est vrai que ça suffit pas une heure en fait pour interviewer...
C'était
ambitieux, quoi. On n'a pas pu aborder toutes les questions qu'on avait prévues, mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir venir tous les jours de manière libre et gratuite voir suivre le travail de la troupe. Donc,
voilà.
Donc,
puis vous reviendrez.
Avec plaisir.
Si, peut-être quand même, je rappelle les dates du coup de l'antithéâtre, l'intégrale, ça va avoir lieu du 22 au 26 mai au théâtre du Point du Jour. Et puis il y a aussi Antigone qui va jouer à Fourvière du 4 au 12 juin.
Exactement.
Donc les auditeurs pourront aussi, ceux qui ne connaissent pas encore ton travail, pourront découvrir tout cela.
Sur le site internet du Point du Jour qui est en ligne et qui vous permet de connaître toute l'actualité du Point du Jour.
Aussi,
oui. Ouais,
de manière sobre.
Oui, une page claire, nette, précise.
Voilà, faut pas cliquer.
Non, faut pas cliquer. On l'a sous les yeux.
Merci à toi, merci à tout le monde, merci Marion, merci Julien.
Et à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.